VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
John Linden en direct du studio d'EF de VOA Afrique à Washington. Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui, édition du mardi 30 janvier 2018. À la une ce soir, au Kenya, Raila Odinga se fait investir président du peuple. L'opposant refuse d'accepter la réélection de Uhuru Kenyatta. Au Tchad, une grève générale illimitée des fonctionnaires a été largement suivie. Niger, au moins 2 soldats ont perdu la vie hier soir dans une attaque attribuée au groupe Boko Haram. Ici aux États-Unis, Donald Trump prononce ce soir le traditionnel discours sur l'état de l'Union. Et bien sûr, dans 10 minutes, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Au Kenya, Raila Odinga a prêté serment comme président du peuple malgré sa défaite à la présidentielle. Les autorités avaient pourtant averti qu'une telle investiture constituerait un acte de trahison. On fait le point avec Yakuba Ouédraogo.
Raila Odinga a prêté serment, la Bible en main, devant des milliers de partisans dans le parc Uhuru de Nairobi. « Moi, Raila Amolo Odinga, je prends la fonction de président du peuple de la République du Kenya », a déclaré l'opposant. Il n'a toutefois pas prononcé le même serment que celui prévu par la Constitution pour l'investiture d'un chef d'État, se proclamant président du peuple et non président tout court. Le procureur général Gitu Mwagai avait prévenu que toute investiture équivaudrait à un acte de trahison. Plusieurs responsables de la coalition NASA, dont Kalonzo Musyoka, colistier de M. Odinga à la présidentielle, ne sont pas venus à cette investiture. Les forces de l'ordre ont gardé leur distance avec la foule qui s'est dispersée aussitôt la cérémonie terminée. La diffusion de l'événement a été interdite par le gouvernement. Certaines chaînes de télévision, dont Citizen TV, ont défié l'interdiction et rapporté que leurs diffusions ont été coupées, mais la retransmission s'est poursuivie sur leur site web.
En RDC, le parti historique de l'opposition congolaise annonce la tenue d'une messe jeudi à Kinshasa à la mémoire d'Étienne Tshisekedi à l'occasion du premier anniversaire de sa mort. Étienne Tshisekedi est décédé le 1er février 2016 à Bruxelles à 84 ans en pleine négociation politique entre le pouvoir et l'opposition sous l'égide de l'épiscopat congolais. Sa dépouille n'a toujours pas été inhumée. Toujours en RDC, 9 personnes membres d'une même tribu ont été tuées en 2 jours dans l'attaque de leur village par les présumés miliciens dans la province du Kasaï, dans le centre du pays. Au Tchad, la grogne sociale s'amplifie. La grève générale illimitée du secteur public a été largement suivie. Claire Morin-Gibourg.
La circulation était fluide dans les rues de la capitale tchadienne aujourd'hui. La plupart des administrations sont restées fermées, ainsi que tous les établissements scolaires, primaires, secondaires et universitaires. Un service minimum a cependant été assuré dans les structures de santé. Lundi, les principaux syndicats tchadiens avaient appelé à la grève générale et illimitée. Le salaire des fonctionnaires a baissé en janvier, conséquence de la nouvelle loi de finances 2018. L'État a imposé des mesures d'austérité drastiques, estimant que le Trésor public n'a aucun moyen de supporter une telle masse salariale face à un endettement de quelque 800 milliards de francs CFA auprès des banques commerciales. Ces mesures, plus la hausse du prix des carburants, ont été les déclencheurs d'une grogne sociale aux allures de fronde contre le régime du président Idriss Déby Itno. Les 112 personnes interpellées hier sont toujours entendues par la police.
Au Burkina Faso, le procès des généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, cerveaux présumés du putsch manqué de septembre 2015, s'ouvrira le 27 février devant un tribunal militaire de Ouagadougou. Au Niger, attaque meurtrière du groupe Boko Haram contre une base militaire dans le sud-est du pays. Au moins 2 soldats nigériens ont été tués. Les précisions avec Blanche Sanou.
Des hommes armés du groupe Boko Haram sont arrivés lundi soir à bord d'une dizaine de véhicules et ont pris pour cible une position de la garde nationale près de Chetimari, un village situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Diffa. D'après une source militaire, c'était une attaque audacieuse repoussée par nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont tout de même perdu 2 hommes. Des renforts dirigés par le chef de la garde nationale de Difa, le commandant Mohamed Al-Ouattara, ont permis de les repousser vers le Nigeria, a-t-il ajouté. Les assaillants ont également perdu plusieurs éléments au cours des combats qui ont duré des heures. En rappel, à la mi-janvier, 7 militaires nigériens ont été tués et 17 autres blessés dans une attaque à Tumour, à l'est de Difa. Entre 2015 et 2017, l'ONU a répertorié 582 victimes civiles dans 244 attaques attribuées à Boko Haram dans la région de Difa.
La police gambienne a levé hier l'interdiction des rassemblements politiques imposés depuis deux semaines après des heurts entre partisans du président Adama Barrow et de son prédécesseur Yahya Jammeh. Au Nigeria, selon Amnesty International, des bombardements aériens des villages par l'aviation nigériane pour mettre fin à des affrontements entre cultivateurs et éleveurs ont fait 35 morts le mois dernier. Deux semaines après les troubles sociaux, le président français Emmanuel Macron se rend mercredi en Tunisie pour soutenir la jeune démocratie avant de rejoindre le Sénégal où il coprésidera le sommet du partenariat mondial pour l'éducation avec la présence attendue de la chanteuse Rihanna. En Afrique du Sud, Winnie Mandela, 81 ans et ex-épouse de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, qui avait été hospitalisé pour une infection rénale et épuisement le 20 janvier, est sortie de l'hôpital. En Algérie, un millier de médecins en formation de spécialisation, dits résidents, ont manifesté à l'intérieur du principal hôpital d'Alger. 13 000 médecins résidents mènent depuis plus de deux mois une grève déclarée illégale. Ils réclament l'abrogation du service civil qui les oblige à exercer entre 1 et 4 ans dans des zones parfois reculées au terme de leurs études, en plus des 12 mois de service militaire obligatoire pour tous les Algériens. Dans des médias marocains ont exprimé aujourd'hui leur inquiétude sur la situation du secteur de la presse, notamment après l'instauration d'une nouvelle taxe à laquelle seront désormais assujettis les sites d'information au Maroc. C'est demain que la justice française va se prononcer sur les 848 cheminots d'origine marocaine qui estiment avoir été discriminés dans leur carrière. Ils réclament plus de 600 millions d'euros à la SNCF. En septembre 2015, la SNCF avait été condamnée pour discrimination dans la quasi-totalité des dossiers.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
C'est un des discours les plus attendus de la politique américaine. Donald Trump va prononcer le traditionnel discours sur l'État de l'Union où il tentera de démontrer ce soir qu'il a tenu ses promesses et qu'il a une vision cohérente pour l'avenir des États-Unis. Après ce discours, un nouveau Kennedy devra lui donner la réplique. Raissa Gironde.
Ce sera son premier discours sur l'état de l'Union devant les deux chambres réunies au Congrès. Donald Trump va parler au pays tout entier, pas seulement à ceux qui ont voté pour lui, a assuré Rasha, le porte-parole de la Maison-Blanche. Il devrait donner un discours optimiste sur l'état des États-Unis, un pays sécurisé, fort et fier. Il ne va pas seulement décrire la place des États-Unis dans le monde, mais redéfinir sa vision de l'Amérique. Il devrait aussi tenir un discours rassembleur alors qu'il est connu pour attaquer ses opposants démocrates. Il va avoir besoin d'eux s'il souhaite faire passer des lois, notamment sur l'immigration. Un sujet qui devrait figurer en bonne place dans ce discours, prévu à 2h temps universel dans l'hémicycle de la Chambre des représentants. Et c'est un jeune élu au nom chargé d'histoire, Joseph Kennedy III, petit-fils de Robert Kennedy et petit-neveu de l'ancien président John Fitzgerald Kennedy, qui prononcera la réponse des démocrates.
Les États-Unis ont levé lundi l'interdiction d'entrée sur le territoire américain qui ciblait des réfugiés de 11 pays, mais durcit leurs conditions d'admission. La liste des pays concernés n'a pas été dévoilée, mais il s'agirait de l'Égypte, l'Iran, l'Irak, la Libye, le Mali, la Corée du Nord, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Syrie et le Yémen, selon des organisations s'occupant des réfugiés. Des ministres israéliens et palestiniens se sont réunis aujourd'hui. C'est la première rencontre à ce niveau depuis le 6 décembre, date de la reconnaissance par le président américain Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. Une reconnaissance qui a suscité la colère des Palestiniens. Et puis, l'envoyé spécial de l'ONU au Proche-Orient, Nikolai Mladenov, prévient que la bande de Gaza sous blocus est au bord d'un effondrement total. Monsieur Mladenov a estimé que sauver Gaza, l'un des désastres, sauver Gaza d'un désastre passé par la restauration au pouvoir de l'autorité palestinienne sur ces territoires actuellement contrôlés par les islamistes du Hamas. Une Iranienne ayant publiquement défié à Téhéran l'obligation faite aux femmes de se voiler dans l'espace public a été arrêtée et la caution pour sa libération fixée à près de 90 000 euros selon son avocat. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée par Eric Manera-Kiza.
La Société financière internationale investira 9 millions de dollars pour développer le secteur de l'habitat au niveau de l'UMOA. La Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'Union devra faciliter l'accès aux populations à des prêts immobiliers. Le taux d'accès à l'habitat dans la sous-région présente un déficit de 3,5 millions de logements et seulement 7% des ménages détiennent leurs propres habitations. Le vice-président de la Société financière internationale pour le Moyen-Orient et l'Afrique a annoncé le déblocage d'au moins 500 millions de dollars pour financer le logement d'ici 2021 dans la zone UMOA. L'ABAD accorde un prêt de 94,5 millions de dollars à l'Ouganda pour la construction d'une route de 118 km. Elle va relier l'est de l'Ouganda et l'ouest du Kenya. Cette nouvelle infrastructure permettra de créer des opportunités commerciales pour la partie orientale de l'Ouganda. Un poste frontalier à guichet unique sera également construit dans la localité de Swam. Kampala déboursera plus de 11 millions de dollars pour financer le coût total de ce projet. La majorité des entreprises américaines en Chine ont accru leur chiffre d'affaires en 2017. Toutefois, la Chambre de commerce des États-Unis à Pékin déplore un environnement d'affaires plus hostile par rapport aux concurrents locaux. La Chine constitue un énorme marché potentiel pour des entreprises étrangères avec une classe moyenne forte de 400 millions de personnes.
Nicolas Pinault est dans ce studio, comme toujours, c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Alors, J-1 avant les demi-finales du CHAN au Maroc.
Et oui, le Maroc, pays organisateur et grand favori de la compétition, affrontera mercredi à Casablanca la Libye, miraculeusement qualifiée pour les demi-finales, avec les larges faveurs des pronostics, évidemment, pour les Marocains. De leur côté, le Nigeria qui a atteint le dernier carré de justesse et le Soudan qui reste sur 10 matchs sans défaite dans ce tournoi. En découdront le même jour à Marrakech.
Sako de retour en France.
L'international sénégalais Diafra Sako quitte West Ham et s'engage pour 2 ans et demi en faveur de Rennes. À quelques mois du Mondial 2018 en Russie, pour lequel le Sénégal est qualifié, l'attaquant de 28 ans, ancien joueur de Metz, espère retrouver du temps de jeu pour convaincre le sélectionneur Aliou Cissé. Diafra Sako n'avait plus joué avec West Ham depuis le 19 décembre en League Cup.
Encore un joueur de Mazembe qui rejoint une équipe américaine, Nicolas.
Oui, la direction des Phoenix Rising FC, qui joue actuellement en D2 nord-américaine, a confirmé la signature du défenseur Yo Frimpong. Il s'agit du 3e joueur ghanéen ayant évolué au tout-puissant Mazembe à rejoindre la franchise de l'Arizona en l'espace de 4 mois après le milieu de terrain Gladson Awako et l'ailier Salomon Asante. Pas étonnant, on sait que l'entraîneur de Phoenix n'est autre que Patrice Carteron qui avait dirigé les Corbeaux entre 2013 et 2016.
On parle de NBA, championnat de basket nord-américain.
Jalen Brown a arraché la victoire pour Boston à Denver, 111-110, sur un panier à 3 points à 34 secondes de la fin du match, confortant ainsi les Celtics à la première place de la conférence Est. Par ailleurs, Milwaukee a enchaîné une 4e victoire d'affilée en s'imposant à domicile contre Philadelphie, 107-95. Indiana a dominé Charlotte en difficulté, 105-96.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui présenté par John Lyndon, production Georges Léonard Sagnot. Place à présent au dossier du jour. Le 30e sommet de l'Union africaine s'est terminé hier à Addis Abeba en Éthiopie. Ces assises ont porté le président Paul Kagame à la tête de la présidence tournante de cette organisation panafricaine. Monsieur Kagame ambitionne à assurer une autonomie financière à l'Union africaine en instituant une taxe de 0,2% sur certains produits importés. Le point avec Getache Tedla à Addis Abeba.
Le développement durable du continent africain a toujours été au centre de la rencontre des leaders aux différents échelons et aux différentes assises. Il en a été ainsi au 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dont les travaux viennent de s'achever à Addis Abeba. Sur cet aspect, à l'ouverture du président de la commission de l'organisation continentale, Moussa Faki Mahamat.
L'Assemblée générale a adopté la décision relative aux recommandations du rapport du président Kagame pour la réforme institutionnelle de l'Union africaine, soulignant la nécessité de transformer l'UNEPAD en agence de développement de l'Union africaine. À cet égard, j'ai instruit un groupe de cadres de la commission et de l'agence de mener des travaux préliminaires d'analyse afin d'identifier les opportunités offertes par cette décision. Nous avons aujourd'hui une meilleure compréhension des domaines de chevauchement entre les activités menées par la Commission, les communautés économiques régionales et l'agence du NEPAD, ainsi que les défis relatifs aux ressources et au positionnement institutionnel de l'agence. Le groupe de travail que j'ai mis en place a pour tâche de formuler des recommandations techniques.
Conduire à bon escient cette mesure est confié au président rwandais Paul Kagame, supposé apporter les réformes qui s'imposent dans le cadre du NEPAD, nouveau partenariat pour le développement, sous son nouvel aspect.
The ongoing reform envisions NEPAD as the development arm of the African Union.
Le NEPAD, en tant qu'organe de développement pour l'Union africaine, constitue la priorité de taille. La mise en place de cette organisation occupera un espace plus accru. Il va sans dire qu'elle se targue comme mission le développement de notre continent et répondre tant que se peut à l'attente de nos citoyens. Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, qui a présidé le comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement, est aussi le président en exercice du NEPAD, précédant les travaux relatifs à la corruption, le thème même de la rencontre des leaders, a souligné du haut de la tribune.
Le transfert de bénéfices, appelé BEPS, est une étape très importante dans la lutte contre les flux financiers illicites, notamment l'évasion et la fraude fiscale. Une mise en œuvre de ce paquet de mesures élargie à tous les pays sera cruciale pour l'efficacité de ces règles et nous avons invité l'OCDE à y travailler. De même, les engagements souscrits par le G7 au titre du CONEX permettront d'améliorer le déséquilibre des contrats d'exploitation occasionnés par la faiblesse de nos ressources humaines dans les négociations contractuelles. Nous devons poursuivre nos efforts pour l'avènement de contrats miniers et pétroliers plus équitables en termes d'exigences fiscales et de justice sociale. J'invite l'agence du NEPAD à exploiter les conclusions de l'atelier organisé à Dakar afin d'identifier les besoins des États pour la négociation des contrats complexes, notamment dans les industries extractives, et à nous faire un rapport.
Kitatio Tedla, Addis Abeba, pour La Voix d'Amérique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire de ne pas manquer Le Monde au féminin à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Bonne gouvernance, droits humains et développement sont les maîtres mots d'une nouvelle ère en Afrique où les jeunes et les femmes commencent à réellement entrer en scène afin de changer la donne. Une discussion LMF avec le président de la diaspora gabonaise pour la démocratie et les droits de l'homme, Jean-Claude Nzamba, expert en technologie de l'information et gestion de projets. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel sur VOA Afrique.
Le calme est revenu à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, après les manifestations de population d'un quartier de pêcheurs qui s'en était pris à des boutiques tenues par des Mauritaniens. Les manifestants, autant pour moi, avaient exprimé leur colère suite à la mort d'un pêcheur sénégalais tué à balles réelles par des gardes-côtes mauritaniens, un acte condamné par Dakar. Le point avec Abdourahman Dia.
Depuis le non-renouvellement des accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie en 2016, les incidents entre les gardes-côtes mauritaniens et les pêcheurs sénégalais se sont multipliés. Moustapha Dien est le secrétaire général du syndicat des pêcheurs artisanaux du Sénégal.
Cet accident constitue le quatrième du genre où des gens ont été tués à bout portant par des gardes-côtes mauritaniens. Je ne parle pas des gens qui ont été amputés parce qu'ils ont pris des balles venant des gardes-côtes mauritaniens, ni des gens qui sont handicapés à vie, qui ne peuvent plus faire la pêche.
Le gouvernement sénégalais a condamné l'usage de la force par les gardes-côtes mauritaniens et appelé les pêcheurs à rester dans les eaux territoriales sénégalaises. Par contre, à Nouakchott, il n'y a toujours pas de réaction officielle. Mohamed Diop est le rédacteur en chef du journal Al Akhbar.
Bien sûr, cela a attiré les médias mauritaniens parce que les deux chefs d'État mauritaniens et sénégalais donc ont été informés de l'incident alors qu'ils étaient à Addis Abeba et se sont vus et se sont parlé. Et d'ailleurs, le ministre sénégalais de l'Intérieur a dit que les deux chefs d'État donc vont prendre l'affaire en main personnellement pour qu'il n'y ait pas de problème ou de dérive. Et sauf que je peux rappeler, là, le Sénégal a décidé depuis hier soir donc d'envoyer un navire militaire de patrouille sur la frontière, un peu pour empêcher les pêcheurs sénégalais de dépasser la frontière.
Et justement, Moustapha Dien, du syndicat des pêcheurs artisanaux, appelle les autorités sénégalaises à prendre au sérieux cette question pour éviter de nouveaux incidents.
Nous savons que quand on a raison une pirogue, même si elle pêche frauduleusement dans votre zone, la loi vous permet d'arraisonner la pirogue, de saisir le matériel, mais de libérer les occupants. Et nous attendons aussi de notre gouvernement que la frontière soit surveillée. Si la Mauritanie est en mesure de surveiller sa frontière, mais notre pays, le Sénégal, devrait également être en mesure de surveiller la frontière.
Aujourd'hui, l'heure semble être à l'apaisement. Mohamed Diop, du journal Al Akhbar de Nouakchott.
Il y a vraiment une tentative d'apaisement et cela, il y a un impact parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'écho du Sénégal d'actes de vandalisme ou autre. Et ici, la presse, même si certaines se penchent du côté de la Mauritanie, il y a un traitement un tout petit peu apaisé et équilibré.
Du côté des pêcheurs sénégalais, on appelle à une reprise des discussions pour un nouvel accord de pêche. Moustapha Dien.
Si les Mauritaniens ont la liberté, grâce donc à la bienveillance du gouvernement du Sénégal, d'amener ses troupes pour pêcher au Sénégal, mais en toute logique, on ne devrait pas nous refuser le droit d'aller pêcher en Mauritanie. Donc notre sujet le plus avant, c'est qu'il y ait la paix, que l'on puisse travailler en toute collégialité, en tout bon voisinage.
Les deux gouvernements tentent de calmer la situation, car les deux pays, dont les relations n'ont pas toujours été bonnes, cherchent à exploiter ensemble les gisements de gaz découverts à la frontière maritime.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Libéria, le nouveau président George Weah a annoncé hier son intention de réviser la constitution de son pays pour supprimer une disposition qui réserve la citoyenneté aux personnes de couleur. Il a aussi promis de réduire de 25% son salaire pour aider les plus pauvres. Après Samuel Doué, George Weah est le deuxième président de la plus ancienne République d'Afrique à ne pas appartenir à l'élite des descendants d'esclaves affranchis qui dominent la vie politique depuis 170 ans. D'abord sur la réduction de son salaire, Idriss Fall a joint à Monrovia notre confrère Zoum Dosso.
Il a dit qu'il va réduire son salaire de 25% dans le but d'aider les pauvres. Parce que, comme il a dit, un gouvernement qui est en faveur des pauvres. Il a aussi exhorté tous ceux qui sont au sein du gouvernement de lui emboîter le pas.
Est-ce que vous pensez que les députés et sénateurs vont lui emboîter le pas?
C'est une question qui reste ouverte. Parce que quand il a fait cette déclaration, c'était lors de son discours à la Nation pour le Nouvel An. Et ça s'est fait toujours au Parlement. Tout le monde applaudit, mais personne n'a osé dire « Bon, Monsieur le Président, moi je te suis ». Comment on attend dans les prochains jours jours. On va voir s'il y a d'autres personnes qui vont lui emboîter le pas.
Il a aussi promis de supprimer la disposition réservant la citoyenneté aux personnes de couleur.
C'est un petit problème complexe et en même temps très simple à expliquer. Le Libéria, c'est un pays qui a été formé par des anciens esclaves qui sont venus des États-Unis. Ils ont été libérés ici sur une île qu'on appelle aussi aujourd'hui Problème Allen. C'est un petit bateau qui est venu les déposer et ils sont venus en pensant à ce qu'ils ont subi aux États-Unis en tant qu'esclaves. Et ils ont formé un pays qu'on appelle le Libéria. Libéria, c'est-à-dire à base de liberté. Alors, ils se sont dit que pour être citoyen du Libéria, il faut obligatoirement avoir la peau noire. Toute personne qui a la peau blanche ne peut pas se naturaliser au Libéria. C'est ce que la constitution initiale depuis 1848, c'est ce qu'elle dit. Cette constitution est restée jusqu'ici. Et George Weah lui dit, après plus d'un siècle, et aujourd'hui, il y a plein de Libériens qui se retrouvent aux États-Unis, qui avaient fui la guerre, qui se sont naturalisés aux États-Unis. Et quand ils reviennent au Libéria, on dit, non, vous n'êtes pas Libérien, vous êtes des étrangers. Pour lui, ça empêche au Libéria de progresser. Et il a même dit que dans les autres pays voisins, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, les Libanais, les Blancs, ils arrivent à se naturaliser. Et pour avancer dans l'économie, il faut qu'on crée la même situation au Libéria.
C'est-à-dire, c'est pour appeler des investisseurs étrangers. Quand tu es blanc au Libéria actuellement, tu ne peux pas acheter de la terre, par exemple.
C'est impossible d'acheter une terre ici tant que tu n'as pas la peau noire. La Constitution dit clairement qu'il faut avoir la peau noire, tu vas avoir une terre au Libéria. Tant que tu n'as pas la peau noire, tu ne peux pas acheter une terre. Un blanc ne peut pas. Que ce soit un Libanais, que ce soit un Chinois, tant que la peau est blanche, tu ne peux pas acheter une terre. C'est ce que la Constitution actuelle dit.
Comme c'est une Constitution copiée sur celle des États-Unis, est-ce qu'il sera facile de changer cette disposition?
Non. George Weah a dit tout simplement qu'il n'a pas demandé à ce qu'on change toute la Constitution. Il a seulement dit que cette partie de la Constitution fait que le Libéria n'arrive pas à progresser. Tu arrives au Libéria, ce sont généralement les Libanais, les Indiens, ce sont eux qui tiennent l'économie. Ils se font de l'argent ici et ils investissent d'ailleurs. Pour George Weah, si on leur avait donné l'occasion de se naturaliser, ils allaient acheter des terres ici et l'argent allait rester. Il a pris l'exemple sur la Côte d'Ivoire, sur le Ghana.
Notre confrère Zoum Dosso à Monrovia, au Libéria. L'université de Lomé accueille du 26 au 31 janvier, depuis le 26 janvier donc jusqu'au 31 janvier, une exposition dédiée à l'un des héros de la lutte pour les droits civiques des Noirs en Amérique. Il s'agit de Martin Luther King qui, 50 ans après sa mort, continue de fasciner le monde. Reportage à Lomé de notre correspondante Kai Lawson.
On le voit ici avec ses compagnons de lutte, avec le président Kennedy. Ici, c'est lors de la signature de l'acte des droits et droits civiques, le 2 juillet 1964.
Nous sommes à une exposition consacrée à la vie de Martin Luther King. Cette exposition qui retrace le parcours de ce défenseur des droits des Afro-Américains va parcourir certaines villes du Togo pour expliquer aux élèves et étudiants qui est l'homme, sa lutte et l'héritage qu'il a légué à l'humanité. Le 4 avril prochain sera commémoré le 50e anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King, tué en 1968 à Memphis. Et c'est en prélude à cette commémoration que le mouvement Martin Luther King organise cette exposition itinérante au Togo. Pasteur Edo Komi, président de ce mouvement.
50 ans après, on voit encore Martin Luther King plus vivant que lorsqu'il était en vie. Donc son combat non violent pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité, résonne encore aujourd'hui.
Martin Luther King a fait véhiculer une idée forte qui continue par influencer le monde, renchérit Komla Avono, directeur de la bibliothèque universitaire de Lomé.
Toutes les idées ne survivent pas, mais son idée a survécu. L'idée de King, d'abord, c'est une idée très difficile à accepter. Dans une situation où les gens emploient de la violence contre vous, la haine contre vous, c'est très difficile de penser que l'amour peut le remporter.
C'est l'American Corner de l'Université de Lomé qui était la première étape de cette exposition itinérante. Nous y avons rencontré des étudiants à qui le nom de Martin Luther King ne résonne pas dans le vide.
C'est le père de la non-violence. Ça nous appelle à ne pas être violents, même si nos dirigeants font des choses mauvaises. Nous devons avoir une attitude polie pour leur faire savoir de leurs mauvaises actes.
Quand on dit Martin Luther King d'abord, ce à quoi je pense, c'est les droits des Afro-Américains aux États-Unis.
C'était donc le reportage de Kai Lawson. C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Georges Léonard Sagno. Bill Barber était à la console. Présentation John Linden. Merci à toute la rédaction pour sa collaboration et à vous pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur notre page Facebook et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.